Bienvenue à tous dans l'Instant M. Comment parler peinture à la télé?
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Ah ça, l'art et la télévision, c'est une histoire compliquée. Mais on ne peut pas reprocher à France 2 de ne pas tenter de nouvelles choses. On a vu hier soir une nouvelle émission, pas franchement convaincante à mon avis, à vos pinceaux, un concours entre peintres amateurs présenté par Marianne James. Et demain soir, toujours sur France 2, voici de l'art à la sauce polar. Trésor volé vous raconte l'histoire de grands tableaux disparus. Et ça fonctionne plutôt bien, je me suis laissée embarquer par l'enquête. L'émission est présentée par Olivier Wiedmeyer-Picasso, le petit-fils du peintre qui est mon invité ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Vous nous racontez dans un instant l'histoire fascinante d'un homme qui est tombé amoureux d'un Rembrandt et l'a donc volé juste pour l'avoir près de lui, sous son lit. Mais d'abord, l'actu des médias et des séries télé. On vous propose un feuilleton de Noël toute cette semaine avec Romain Nigita.
L'Instant M, l'actualité des médias sur France Inter.
L'info média du jour, c'est le retour du zapping. Annonce de France 2 hier, la chaîne a recruté Patrick Mennet, le fondateur du programme culte diffusé sur Canal+ pendant 27 ans. Patrick Mennet a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute l'été dernier. Il faut dire que le zapping s'en était donné à cœur joie sur Vincent Bolloré. Alors évidemment, le nom zapping n'est pas exportable, propriété Canal. La pastille de France 2 s'appellera donc VU. Elle sera diffusée tous les jours à 17h25 à partir du 16 janvier. Horaire étonnant, 17h25, mais aussi format beaucoup plus long, 6 minutes au lieu de 3, calibré pour faire le buzz sur les réseaux sociaux. iTélé, chaîne fantôme le week-end. Aucun direct n'a été diffusé sur le week-end de Noël sur iTélé, faute de journalistes. Eh bien, ce sera la même chose le week-end prochain. L'année 2017 sur la chaîne Info commencera donc par des diffusions de reportages. Point barre. Depuis son mouvement de grève historique, la rédaction d'iTélé est décimée. Plus de 90 salariés sur 120 ont quitté la chaîne. La direction s'est engagée auprès du CSA à remplacer tous les départs. Reste à savoir quand, et quant au changement de nom de iTélé à CNews, il est toujours en suspens.
L'Instant M, Dorothée Barba, sur France Inter.
On prépare depuis lundi un réveillon aux petits oignons grâce à Romain Nigita. Bonjour Romain.
Bonjour Dorothée.
Quel personnage de série télé doit-on inviter pour passer une soirée inoubliable? C'est la question qu'on se pose toute la semaine. Alors les triplés de la série This Is Us viennent raconter leurs histoires de famille. C'est bien sûr Monica de Friends qui se met au fourneau. Mais qui va se dévouer pour découper la dinde au marron?
Oui, puisque l'année dernière, tonton Jean-Marc avait fait n'importe quoi et vous vous étiez retrouvé avec plus d'os que de farce. Cette année, prenez les choses en main et faites appel à un spécialiste de la découpe, Dexter. Vous vous souvenez de Dexter Morgan?
Oh oui.
Le jour, il est l'un des membres de la police scientifique de Miami, mais la nuit, c'est un tueur en série qui ne tue que des criminels. Pour s'occuper de votre dinde, il viendra avec son propre équipement. D'abord, sa gigantesque mallette de couteaux, de toutes les tailles, de toutes les formes et tous bien aiguisés. Alors, ça ne m'étonnerait pas que ce soit Philippe Etchebest qui les lui ait offert. Il débarquera aussi avec des gigantesques rouleaux de films plastiques qu'il accrochera sur les murs et les meubles. Non, il ne compte pas repeindre votre salon, c'est juste que Dexter est un garçon très propre et très organisé.
Il est aussi maniaque que Monica Geller, finalement.
C'est flippant d'ailleurs. Ne prenez pas peur non plus en le voyant emballer les restes de dinde à la fin du repas. Ça n'est pas pour les donner à son chien, il va seulement les jeter en pleine mer pour effacer toute trace. Oui, c'est une vieille habitude.
Alors, hormis la découpe de dinde, est-ce qu'il peut rendre d'autres services?
Si vous vous coupez la main en ouvrant les huîtres, il pourra analyser les traces de sang pour reconstituer les circonstances de l'accident. C'est sa spécialité au labo du commissariat. Si votre beau-frère s'intoxique avec du foie gras à la grippe aviaire, le commerçant qui vous l'a vendu ferait mieux de numéroter ses abattis. La vengeance de Dexter sera terrible. Et si vous avez besoin d'un bout en train pour animer la soirée, eh bien, ne comptez pas sur lui pour mettre l'ambiance. Il a à peu près autant d'humour qu'un vegan devant une pub Charal. En revanche, il peut venir avec son collègue de labo, Vince Mazouka, à condition que vous aimiez l'humour tendance Jean-Marie Bigard ascendant Patrick Sébastien.
Et c'est pas faux. Y a-t-il des précautions à prendre si on invite Dexter chez soi?
C'est une très bonne question. Je vous conseille d'éviter de lui demander comment va sa famille, vu qu'ils sont à peu près tous morts dans des circonstances horribles au fil des saisons. Même chose avec ses collègues de travail, étant donné qu'il en a lui-même assassiné quelques-uns. Et enfin, si vous voyez Dexter parler tout seul durant le repas, pas de panique. Il parle juste au fantôme de son père. Prévoyez donc une assiette de plus au cas où.
Alors, vu que la série a duré 8 saisons, Romain, quel est le Dexter que l'on doit inviter à notre réveillon?
Celui des 4 premières saisons, quand il était encore un personnage certes ambigu, mais passionnant et en perpétuelle évolution. Le Dexter des années suivantes n'était plus que l'ombre de lui-même, un cliché sur pattes englué dans une formule immuable qui a fini par tourner au ridicule. Il faut dire qu'entre-temps, son showrunner fétiche, le talentueux Clyde Phillips, a quitté le navire, et Dexter ne s'en est jamais remis. Faites donc bien attention à inviter le vrai Dexter et pas cette contrefaçon que vous ne pourrez même pas ramener au service après-vente.
Dexter Morgan, donc parmi les convives de notre réveillon 100% série. Merci beaucoup Romain Nigita. Vous revenez demain matin pour peaufiner le casting de ce repas de fête. Il est 10h moins le quart sur France Inter. Bienvenue dans le plus grand musée du monde. Un musée qui abrite des toiles sublimes, mais qui n'est pas ouvert au public. C'est le musée des œuvres disparues que vous propose de visiter France 2 avec l'émission Trésor volé, présentée par Olivier Picasso, qui est mon invité ce matin. Alors, l'émission a démarré la semaine dernière. Deux nouveaux épisodes sont diffusés demain soir, jeudi. Et je recommande notamment le premier épisode qui concerne un tableau de Rembrandt. Une histoire complètement dingue, on va y revenir. D'abord, quelques mots sur la mise en scène de cette émission, Olivier Picasso. Il y a des témoignages dans la pénombre, des images de reconstitution, une atmosphère très polar. C'est largement inspiré de « Faites entrer l'accusé ».
C'est surtout une technique qui s'attache à toutes les évocations de faits divers. Mmh. Je pense qu'à partir du moment où on s'appuie sur un fait réel, il faut reconstituer, voire dramatiser les choses. Et ça va aussi bien à travers l'image qu'à travers le son. Maintenant, dans les vols d'œuvres d'art, ça se passe souvent la nuit, dans les musées. Et il était intéressant pour le réalisateur Guillaume Pérez de recréer cette ambiance. Et donc, aussi bien certains voleurs ou des resellers que nous avons retrouvés, mais aussi les directeurs de musées ou les gardiens, parlent parfois dans la pénombre pour raconter
tous,
ce moment.
Hein, tous parlent dans le noir.
Oui, ce moment douloureux qu'ils ont connu et qui leur a fait vivre des moments intenses.
Bon, vous, à la présentation, vous êtes beaucoup plus sobre que Christophe Ondelat, hein, ceci dit.
C'est vous qui le dites, mais disons, un costume se suffit à lui-même pour raconter des histoires incroyables.
Alors, ce qui est fascinant dans les histoires de vol de tableaux, c'est qu'elles impliquent aussi bien le grand banditisme que des voleurs occasionnels. On découvrira demain donc l'histoire d'un homme qui a volé un tableau de Rembrandt au musée de Draguignan, l'enfant à la bulle de savon. Simplement pour pouvoir parler à cet enfant sur le tableau. Il a gardé le tableau chez lui sans jamais le vendre pendant 15 ans. Et ce qui est dingue, c'est que c'est le voleur lui-même qui raconte.
Je suis arrivé à Sainte-Maxime, et puis chez moi. Et puis là, prendre le tableau, monter l'escalier, pousser ce cri de soulagement, ce cri de libération, enfin je l'avais. C'était magnifique, mais là, l'euphorie a commencé, et s'est pas arrêté pendant 5-6 heures. Je l'ai monté dans ma chambre qui était à l'étage, sur une mezzanine, et j'avais une commode, je l'ai posée sur la commode en face du lit. Et là, j'allumais toutes les lumières, j'ai éteint les lumières. J'ai vu les effets de clair-obscur, comme on dit. Et c'était magnifique. Je l'ai regardé, je l'ai espionné, j'ai essayé de lui parler, il ne m'a pas répondu. On s'est pris en photo tous les deux. Oh, c'était un moment super. Et là, à ce moment-là, j'ai dit waouh. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as volé un tableau de Rembrandt dans un musée quand même.
Voilà, beaucoup de dramaturgie grâce à l'habillage musical. C'est un voleur amateur, mais il lui a fallu beaucoup de préparation, évidemment, pour réussir son coup. Ce qui est fou, c'est qu'il va ensuite entretenir une espèce de relation clandestine avec ce tableau.
Absolument. Quand il le ramène chez lui, il n'a pas encore rencontré sa femme. Il va la rencontrer, ils vont se marier, avoir 2 enfants et il va vivre avec un inconnu dans la maison, caché, puisqu'il va lui cacher, le cacher à sa famille. Leur vie va être transformée, ils vont déménager à cause du tableau, ne pas partir en vacances. Et demain soir, on verra la narration qui nous montrera quel a été son destin à lui, parce qu'à un moment donné, il a dû avouer.
Voilà, ce tableau de Rembrandt prend effectivement beaucoup de place dans sa vie.
Il ne s'éloigne jamais de la maison plus d'une journée. Donc ils ne partent plus en vacances.
Et j'avais toujours cette non-explication en me disant « mais il est en train de sombrer dans la folie. Je ne sais pas ce qu'on va devenir, mais c'est plus possible. »
Elle me trouve de plus en plus dingue, oui. Mais elle ne me le dit pas, mais je le vois. Son comportement change, on est plus en dispute, on est plus en querelle et je vois qu'il y a quelque chose qui se passe.
Le tableau, le consume, en fait, c'est un peu une histoire à l'envers de Dorian Gray, c'est-à-dire que lui tombe de plus en plus malade alors que le tableau se porte très bien.
Ma vie est asphyxiée. Ma vie. Pendant ces 15 ans, je n'ai fait que l'admirer, je n'ai fait que l'adorer, le chérir. Là, la décision a été prise et je devais le rendre.
Alors, la fin de l'histoire est tragique. Hein. Le voleur, effectivement, rend le tableau. Il ne va pas en prison car les faits sont prescrits, 15 ans après le vol, mais il meurt peu de temps après s'être séparé de son enfant à la bulle de sa
Et de s'être confié à nous, une semaine après l'interview. Alors, ce qui est important de rappeler, c'est qu'on raconte également les circonstances du vol. Comment il a préparé ce vol? On s'aperçoit que dans chaque histoire, il y a véritablement des scénarios rocambolesques. Et lui a même choisi de le faire le soir de la fête nationale parce qu'il y aura un défilé militaire avec des hélicoptères qui vont faire beaucoup de bruit. Et puis l'autre partie intéressante de cette série, c'est de raconter l'art. Finalement, dans un monde où on parle d'information, ça va vite. Là, j'ai souhaité qu'on s'intéresse un petit peu aux artistes et qu'on explique pourquoi une œuvre présente un intérêt particulier pour un voleur qui peut être celui du dimanche, mais aussi parfois de véritables mafias qui sont organisées pour essayer de découler cette marchandise vendue.
Le voleur s'est fait enfermer dans le musée, dans un placard, dans une armoire normande, hein, en attendant la fermeture.
Pendant 6 heures.
On sent dans vos micros de présentation, Olivier Picasso, vous tenez à répéter que c'est mal, le vol, en quelque sorte.
Ben, surtout quand dans certaines histoires, il se trouve que les procès n'ont pas encore eu lieu, donc on a tout de même...
Il y a une fascination effectivement à l'égard de ces histoires, et il faut rappeler que c'est illégal, tout simplement.
Oui, tout simplement aller au musée, aller voir des œuvres d'art, laissez-les où elles sont.
Vous êtes heureux de montrer l'enfant à la bulle de savon de Rembrandt à la télévision, Olivier Picasso?
Écoutez, je suis heureux de pouvoir parler d'art différemment. C'est comme ça que j'ai fait dans les dernières années, à travers des émissions différentes que j'ai pu produire ou parfois présenter. Et cette série avait l'intérêt d'être à la fois captivante, mais en même temps, il y avait du savoir. On apprend quelque chose.
Alors, le deuxième épisode de Trésor volé, diffusé demain soir sur France 2, nous conduit au Japon. Sur la trace de 5 tableaux de Camille Corot qui ont été volés dans un musée de Bourgogne, à Saumur en Auxois. C'est une affaire qui fait intervenir les Yakuza, la mafia japonaise, une commissaire de police épatante, hein, qui est une commissaire française qui est tenace. Elle fait le voyage au Japon pour récupérer l'étoile. Également un expert français envoyé à Tokyo.
Il y a des petits détails qui ne trompent pas, qui sont facilement copiables, je vous le concède. Simplement, il n'y a que Corot qui sait les placer où il faut. C'est ce fameux petit point rouge qui, comme il disait, faisait chanter les couleurs. Et ce petit point rouge, Corot le place exactement là où il doit être, pour souligner la construction de l'œuvre. Un faussaire ne comprend pas forcément cela.
L'intérêt de cette émission Trésor volé, finalement, c'est bien au détour de l'enquête de replacer ce peintre, Camille Corot, dans son époque et de parler de son œuvre, de montrer son travail. L'art à la sauce polar, finalement, c'est une manière de prendre le téléspectateur par la main et de lui parler d'art, l'air de rien.
Aujourd'hui, visiter un musée est devenu un divertissement comme un autre. Heureusement, les familles se déplacent, il n'y a plus cette peur de l'inconnu, du bâtiment.
Mais à la télé, c'est toujours compliqué.
À la télé, c'est toujours compliqué parce qu'il ne faut pas tomber dans une sorte de diaporama qui remplacerait un livre ou un catalogue. Je pense qu'il faut amener les gens à s'intéresser à ce qui parfois fait le patrimoine. Notre patrimoine, et notamment en France, où l'histoire de l'art est tout de même féconde. Et parler d'art de cette façon est une façon différente, inédite, et j'espère que le public va adhérer. En tout cas, la semaine dernière, pour les deux premiers épisodes, les audiences étaient satisfaisantes. On a la chance d'être derrière un grand programme événementiel qui s'appelle Prodige, et ce sera le cas demain soir. Donc France 2 a joué une bonne carte.
Est-ce que vous avez vu à vos pinceaux hier soir sur France 2, Olivier Picasso?
J'ai jeté un coup d'œil, absolument. Je sais que c'est très compliqué, et surtout
émission,
moi...
Émission de concours entre peintres amateurs présentée par Marianne James. C'est compliqué d'adapter la création artistique au format télé.
Ce sont des expériences. J'ai regardé, j'ai trouvé que beaucoup de ces candidats avaient du talent, que je n'ai pas.
Il y a quelques croûtes aussi.
J'ai raté ce passage-là. Mais en tout cas, je pense que toute expérience est bonne à prendre.
Mais quand même, le cœur de l'émission, c'est la compétition, c'est pas la peinture.
Alors ça, c'est plus compliqué, même si je sais que mon propre grand-père avait un regard très attentif à Matisse, par exemple, pour voir un peu ce qui se passait chez les autres. Aujourd'hui, la compétition fait partie un petit peu du monde, que ce soit la musique, la chanson, la danse. Et bien aujourd'hui, ce sera la peinture.
Vous choisir, vous, Olivier Picasso, le petit-fils de Pablo, pour présenter cette émission sur France 2, est-ce que c'est une façon pour la chaîne de se servir de votre patronyme, disons, pour être une porte d'entrée pour le téléspectateur?
Disons que ça m'oblige à avoir une grande rigueur, en tout cas par rapport aux informations que je délivre.
Vous avez conscience que c'est pour ça qu'on vous recrute ou pas?
Non, parce que j'ai tout de même fait un parcours au travers du monde de l'art, et notamment en télévision, avec des émissions inédites. Il y a quelques années, c'était L'Art à tout prix, qui suivait le prix Marcel Duchamp. Il y a encore un peu plus longtemps, c'était des portraits de grands créateurs. Donc j'essaie de ne m'intéresser à la télévision qu'à travers le prisme de l'art et de la culture, quand je peux être cohérent et instructif.
Vous vous sentez légitime, mais vous utilisez quand même votre nom de famille.
Je me sens privilégié, mais j'ai beaucoup à démontrer.
Plus qu'un autre.
Certainement.
Vous avez l'intention de développer votre marque à la télévision ?
Non, je ne suis pas une marque, ne vous inquiétez pas. Pas comme les voitures, mais j'ai en tout cas l'intention de trouver des projets intéressants à porter et à accompagner. Quant à la présentation, elle est anecdotique. Cette fois-ci, ça s'est présenté à moi, on me l'a proposé parce que peut-être j'avais une compétence.
Pourquoi la télé, finalement, a-t-elle aussi peur de l'art, en dehors de la musique et du cinéma, Olivier Picasso ? Pourquoi la photo, les arts plastiques, la peinture ne prennent-ils pas plus de place dans ce qui est un média de l'image, finalement ?
Parce que la télévision est un prolongement de l'image qu'est la photographie, qu'est la vidéo, qu'est le cinéma.
On a peur des images fixes, peut-être.
C'est une représentation du réel, et le peintre a des yeux différents, d'un regard différent du nôtre. Il nous montre une autre partie de la réalité que nous ne voyons pas. C'est ça qui fait la magie de l'art et des artistes.
Et pourquoi si peu, alors ? Pourquoi cette frilosité ?
Je pense que le service public doit en effet s'interroger sur ses différentes missions. Et à partir du moment où on est libéré des audiences pour la publicité après 20h, il y a de quoi faire beaucoup de choses nouvelles.
Vous êtes diffusé, vous, le soir à 23h10. C'est pas du prime time.
C'est pas du prime time, mais c'est à cause de l'événement qui est diffusé juste avant, qui est assez long, donc Prodige.
Avec Marianne James.
Je connais d'autres émissions qui sont consacrées à la culture, qui ont beaucoup moins de chance et qui en général passent le jour d'après, après minuit.
Et bien sûr Dardard, qui est diffusé sur France 2, là aussi, présenté par Frédéric Taddeï. Bon, c'est une pastille d'une minute trente, diffusée une fois par semaine entre la météo et le film, c'est pas franchement... énorme.
On pourrait demander plus, mais on a la compensation de l'audience. Parce que l'audience en prime time est évidemment énorme et c'est peut-être un petit appel du pied pour aller voir de l'art ailleurs et peut-être au musée.
Belle longévité, ceci dit, pour Dardard, ça existe depuis 2002.
C'est un programme court qui a la chance en effet d'avoir une longévité, donc ça veut dire que le public y est attaché.
La chaîne de télé sont d'autant plus étonnamment frileuses que les expos, vous en parliez à l'instant, cartonnent. Les records de fréquentation explosent régulièrement. C'est pas compliqué de faire venir du monde. Faut voir par exemple l'expo Stoukine en ce moment à la Fondation Vuitton. On peut pas du tout y accéder sans réserver 2 semaines à l'avance.
On parle même de 10
000, ça devrait 10 000 convaincre 10 000 les patrons de chaîne, ça.
Il faut les emmener au musée, puis après on les ramène au bureau pour étudier de nouveaux projets.
C'est votre combat ?
C'est en tout cas une envie que j'ai, bien sûr.
Alors, vous coproduisez également, je crois, une série de programmes courts qui sera diffusée à partir de 2017 sur France 2, là encore, pour le 40e anniversaire du Centre Pompidou à Paris. Ça va ressembler à quoi, Olivier Picasso ?
Ça va ressembler à une série de témoignages, d'anecdotes racontées par des personnalités du monde des arts et de la culture. Ça va aussi bien de Pierre et Gilles à Yannick Alénaud, à Catherine Deneuve, par exemple. Et ça a été des moments très intimes où chacun m'a raconté une expérience avec une œuvre, le bâtiment, avec un ami, un amour, des enfants. Et donc, tous les soirs, on aura l'occasion de redécouvrir le Centre Pompidou à travers le regard et les souvenirs de gens que le public aime beaucoup et qui sont véritablement des personnalités des arts et de la culture. Il y a une forme de légitimité qui va, je crois, donner du contenant.
Donc cette fois, on se sert plutôt des people pour faire passer la pilule.
Ah là, on n'est plus dans le people, on est véritablement dans la personnalité incontournable. On n'est plus dans la polémique.
Donc ce sera diffusé évidemment à 20h50 sur du format long.
Ce sera juste après le journal de 20h, 20h35 tous les soirs à partir du 16 janvier.
Et ce sera des pastilles plutôt quel format ?
C'est un format qui est inférieur à 2 minutes.
Merci beaucoup Olivier Wiedmaier-Picasso. Trésor volé, c'est donc à voir demain jeudi sur France 2 en deuxième partie de soirée avec notamment cette histoire fascinante d'un vol de Rembrandt raconté par le voleur lui-même. Très belle journée à vous.
Merci.
Et à bientôt sur France Inter. Dans un instant, grand bien vous fasse.